Bienvenue dans le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode, le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le monde de la mode.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News and Analysis de Entreprendre dans la mode. Nous sommes aujourd'hui avec Jordan Salomé. Il est le fondateur de Get Real et en fait il accompagne les marques de mode dans leur stratégie sustainability. Et aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets, mais on va faire une mini revue de presse de ce qui se passe dans le monde de la mode sur la partie sustainability. Salut Jordan.
Salut Adrien, merci de m'accueillir chez toi. Je pense qu'on devrait avoir un meilleur son cette fois.
Ouais, carrément, et je pense que ça va être ça sera beaucoup plus simple. Donc on se lance tout de suite. Qu'est-ce qui t'a marqué ce mois-ci dans le monde de la mode sur la dimension sustainability?
Bah écoute, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère de la collaboration. Ouais. Et en fait, tout est parti de Copenhagen Fashion Summit. Mmh. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant. Mmh. Et c'était le grand thème, le grand maître mot de toutes ces quelques jours là-bas. Il y a eu pas mal de conférences et dont Brune Poisson, qui est notre secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.
D'accord. Elle a pris la parole sur scène au Copenhague Fashion Week.
Exactement.
Ok.
Qui est un peu qui est une première. Déjà sur ces sujets-là, sur le sujet de la mode en tout cas, et qui a un peu introduit un grand sujet dont je pense peu de personnes sont passées à côté, mais l'introduction de notre président Emmanuel Macron, qui a intronisé François-Henri Pinault, le patron de Kering, comme disons porte-parole et de ce sujet-là et qui l'a chargé de mener un projet de fédération, de fédérer des marques autour de lui pour justement relever ces challenges autour du développement durable, pour justement trouver des objectifs qui soient quantifiés autour du développement durable et mettre un calendrier de mise en œuvre, en fait. Donc tu as eu un discours dans la foulée de Pinault justement, qui a présenté un petit peu plus en détail ce qu'il voulait faire. Un discours plutôt inspirant. Alors Kering parle beaucoup, ils font beaucoup de choses sur ces sujets-là. Et là, tu as les mots étaient bien choisis, mieux qu'une Brune Poisson. Tu voyais un petit peu tâtonner sur ces questions-là, qui apprenait des faits qui n'étaient pas totalement vérifié, mais la démarche est là et c'est assez positif. Mais François-Henri Pinault a parlé d'intelligence collective, de situation d'urgence, ce qui est assez, c'est un peu la première fois qu'on entend ça dans la bouche de CEO de grandes entreprises, en tout cas d'entreprises de mode, et qu'il fallait justement travailler ensemble. Chose intéressante là-dedans, c'est qu'il a bien dit qu'il n'avait pas toutes les solutions. Donc pour lui, il va pas délivrer, si tu veux, toutes les solutions que Kering a pu trouver et les donner aux marques et leur dire ok, on va aller vers ce cap-là, mais l'idée c'est de les trouver ensemble. Après, une chose intéressante qui a été abordée et qui est assez particulière aussi, c'est le sujet des institutions financières de la part du patron de Kering, qui disait que les institutions financières ne devaient plus prendre en compte que des données économiques et de croissance des entreprises, mais aussi prendre en compte justement les performances environnementales et sociales des entreprises. Pour les justement pour convaincre un peu les grands dirigeants des organismes et des CEO de bouger, tu vois. Il veut un peu casser ce principe de business as usual, parce que c'est quand même l'argent qui drive le secteur et c'est difficile parfois de shifter de direction et te dire ok, je vais investir, je vais changer certaines choses si la croissance est le seul maître mot dans ta stratégie d'entreprise et que t'es seulement évalué là-dessus.
Et ça c'est Pinault qui le dit.
Ouais, exactement.
Et donc il va se l'appliquer à lui-même, alors j'imagine, et il passe le message aux institutions financières qui financent la mode.
Ouais, là c'était après il veut les rencontrer, tu vois. Ce qu'il te dit, c'est qu'il y a à peu près une dizaine de personnes à convaincre sur ces sujets-là. Après, c'est J'attends de voir un petit peu parce que c'est assez audacieux, en tout cas, mais c'est hyper intéressant comme vision de voir. Et ce que tu retrouves très peu. Après, quelques jours après, tu as le patron d'Hermès, justement, qui annonçait dans son variable qu'il allait avoir une part qui serait indexée sur les performances en RSE, dont trois piliers qui étaient la planète, sujet, diversité, et égalité homme-femme, et aussi l'aspect communautaire. Donc ça qui est un petit peu une première. Après, on parle de 10% du variable de son salaire. C'est pas énorme, tu vois, mais c'est une première et c'est à saluer en tout cas. Et ça va peut-être faire bouger un petit peu plus les choses, j'espère. En tout cas, faire réfléchir aussi les autres CEO.
C'est fou, mais je trouve que c'est, ça me paraît hyper tardif en fait, que ça vienne que maintenant. Mais en même temps, il faut le souligner, il faut le saluer.
Il est jamais trop tard.
Il est jamais trop tard, mais ouais. Ça paraît éteint quand même. Tu te dis, ça va, c'est quand même pas des, c'est pas des lapins de 3 jours tous ces gens. Enfin, la prise de conscience, elle se fait que maintenant quoi.
Alors, la prise de conscience, tu vois, prise de conscience, je dirais, c'était il y a peut-être un an et demi, 2 ans, on l'a eu, mais ça prend du temps en fait. Ta prise de conscience, tu sais qu'il se passe quelque chose, mais avant d'agir, t'as une période de réflexion, et là, on est vraiment rentré, je trouve, dans l'action. Et la collaboration, c'est un stade qui est encore après de l'action. Parce que ce que dit Pino aussi, c'est que il y a plein d'entreprises qui font des choses, chacun de leur côté. Et je pense qu'il s'inclut aussi là-dedans parce que Kering fait beaucoup de choses.
Ouais, il se bouge. Ouais.
Mais il se bouge. Mais d'un point de vue partage, on n'y est pas forcément, tu vois. Et ça se comprend. C'est toutes les innovations qu'ils trouvent sont destinées à leur marque en interne. Mais le fait de collaborer et de partager et de parler d'intelligence collective, ça, c'est hyper fort. C'est un mot hyper fort qui n'est pas vain. Après, par contre, il faut voir dans les faits comment ça va se concrétiser.
Mais d'ailleurs, dans le choix du président Emmanuel Macron d'aller chercher François-Henri Pinault, qui est un des deux grands groupes de luxe français, enfin un des 5 ou 6 grands groupes de luxe français, comment tu décodes ce truc-là? Stratégiquement, est-ce que c'est intelligent d'aller chercher François-Henri Pinault quand tu sais que voilà, il y a quand même une forme de, il y a une compétition entre LVMH et Kering depuis toujours. Est-ce qu'il n'aurait pas eu intérêt à aller chercher quelqu'un qui soit plus neutre? Mais peut-être qu'il y aurait eu moins de pouvoir à la fin.
C'est ça, il se mouille pas trop en fait, parce qu'il te prend l'entreprise qui parle le plus sur ces sujets-là, qui se sont auto-instaurés en leader, ce qui est le cas. Mais une entreprise comme LVMH, ils en parlent beaucoup moins, mais leurs efforts sont aussi à saluer. Ils font beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus judicieux d'avoir une organisation qui soit un petit peu plus indépendante. Parce que faut pas se mentir, t'as quand même des enjeux politiques, des guerres de pouvoir entre les marques, ça se regarde. De dire ok, c'est Kering qui lead ce sujet-là, nous on va être un petit peu en second plan. Tu vois, c'est un petit peu compliqué pour ces marques-là, et par contre c'est un peu tardif, je trouve. C'est pas forcément très adroit, c'est un peu tardif.
Mais parce que c'est quand même c'est une grosse réaction au vote pour les Verts sur les européennes. Ouais. Clairement, c'est une réaction directe, quoi.
Alors c'était avant.
C'était juste avant.
Ouais, on était juste avant.
Ok.
Mais par contre, c'était vraiment dans le thème du Copenhagen Fashion Summit, donc d'accord. Ils ont d'un point de vue communication, c'était hyper bien calé. Par contre, là, la mission, c'est pas juste fédérer des entreprises françaises. Quand Macron, il dit je confie ce sujet-là à Henri Pinault, il est dans un projet un peu mondial. C'est-à-dire d'instaurer la France comme un leader sur ces questions-là. Par contre, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou aux Pays-Bas, ils nous ont pas attendus pour travailler sur ces sujets-là. Donc on arrive un petit peu en retard et la question de notre légitimité se pose, tu vois. On arrive un peu sur notre grand cheval blanc. Okay, nous, on va fédérer tout le monde.
On est la capitale de la mode.
Voilà, on est la capitale de la mode. Et bon, après, tu vois que ça commence. Il y a déjà des entreprises qui commencent à se rallier. PVH, donc Calvin Klein, Tommy Hilfiger, rejoignent le mouvement. Après, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les infos, si tu veux. C'est assez sommaire, mais c'est rendez-vous d'ici fin août, où là, tu auras le sommet du G7. où là devrait être annoncé justement ce Fashion Pact, comme ils l'appellent, où on en saura un petit peu plus sur les objectifs justement qu'ils veulent se fixer. Mais on a très peu d'infos et ce qui est dommage, c'est qu'on parle de collaboration, on te dit que l'idée c'est de réunir tout le monde. Par contre, d'un côté, tu as les Nations Unies qui a mis en place une charte avec Stella McCartney qui appelait aussi toutes les entreprises mondiales à se réunir autour d'objectifs concrets qui étaient zéro émission d'ici 2050, réduction de 30% des émissions d'ici 2025. Donc ça, c'est une initiative aussi qui appelle à fédérer. En France, à Paris, on a Paris Good Fashion.
J'allais t'en parler, ouais. Parce qu'il y a plein d'initiatives en même temps. Il y a Paris Good Fashion, mais il me semble aussi que le gouvernement a demandé à la Fédération Française de la Haute Couture de prendre le sujet à bras le corps. Donc j'ai l'impression que tout le monde veut se positionner là-dessus, qu'il n'y a pas, enfin, il y en a pas un plus puissant que l'autre, enfin, que tout le monde se regarde et tout le monde, se lance. Alors c'est quand même une très bonne nouvelle, moi, je trouve, hein. C'est une excellente nouvelle, mais d'un autre côté, tu sens qu'il y a encore une fois une sorte de lutte de pouvoir entre les institutions, que ce soit la mairie de Paris avec Paris Good Fashion, la Fédération Française de la Haute Couture, Pinault, Kering et c'est le président Macron qui demande à Kering de fédérer tout le monde, les Nations Unies. Enfin, ça va faire quoi? Et surtout, la question que je me pose, c'est encore de très beaux discours, quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, les gars?
Ouais, exactement. Ouais. Mais je sais pas si c'est un manque de communication. Si Brune Poisson ou le président Macron n'étaient pas au courant qu'il y a une Paris Good Fashion, qui est une initiative hyper louable et qui, justement, a déjà commencé à rassembler beaucoup de marques autour de la table sur cinq sujets différents, justement.
Ouais, explique-nous peut-être ce que c'est Paris Good Fashion.
En fait, la mission de Paris Good Fashion, c'est de co-construire. Donc, on est vraiment sur un aspect de co-construction et de rassembler les gens. Et que c'est pas une personne en particulier qui va dire on va aller dans ce sens-là. C'est tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice. Co-construire une feuille de route qui va servir de référentiel à tous les acteurs de la mode. Donc après, bien sûr, autour de la table, tu peux pas avoir toutes les marques parisienne, c'est compliqué et ce serait ingérable. Déjà, avec 10 personnes, c'est déjà parfois compliqué de s'entendre.
Il y a qui autour de la table là?
Kering est autour de la table, LVMH est autour de la table, Première Vision est autour de la table, la Fédération.
Les deux fédérations ou qu'une seule?
T'as la couture, bien sûr, prête à porter et impliquée aussi. Souvent, les réunions sont à l'IFM. Mm-hmm. D'ailleurs, tu auras une conférence de presse le 25 juin à l'IFM pour présenter justement toutes les avancées de la Paris Good Fashion.
Je sens qu'il y avait Alex de Bétac aussi.
Ouais, exactement, t'as Studio de Bétac. En fait, t'as des représentants un petit peu de différents...
corps de métier.
Ouais, exactement. Ouais. Okay. Corps de métier. Donc voilà, et l'idée, c'est travailler sur différents secteurs de la mode, donc aussi bien le prêt-à-porter que la fast fashion, que la haute couture, que les accessoires. C'est pas que circonscrit au luxe, par exemple. Et différents groupes de travail, type cartographie de justement toutes les initiatives sur Paris autour d'une mode responsable. Donc,
mais c'est quoi? C'est à la fois pour une fashion week qui est plus responsable, c'est-à-dire que moins de déchets, moins de gaspillage, etc. C'est pour une industrie en fait plus responsable.
Ouais, ouais.
Et ils vont se fixer des objectifs de d'émissions, enfin de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de moins de consommation de plastique, de moins d'emballage. C'est assez large en fait.
Alors en plus des objectifs, c'est surtout des actions concrètes. L'idée, c'est d'avoir de faire une charte commune et de pouvoir donner des guides, tu vois, une marque qui, je sais pas, sur les events fashion sur Paris, une marque qui a besoin d'organiser son défilé ou de faire quelque chose, qu'elle puisse avoir accès justement aux beaux contacts, aux best practices pour limiter sa consommation d'énergie, pour, je sais pas, après son démontage de défilé, pour que ça puisse être récupéré, recyclé, réutilisé. Voilà, c'est donner vraiment on est vraiment sur du concret.
Excellent.
Donc voilà, après pour Paris Good Fashion, la charte des Nations Unies, là cette nouvelle aventure avec François-Henri Pinault, l'idée maintenant ce serait de voir comment tu peux trouver des ponts entre ces initiatives, parce que souvent tu te rends compte que t'as des groupes de travail qui sont les mêmes. et parfois des acteurs qui se retrouvent dans des groupes de travail identiques.
Mmh. Et qu'est-ce qui se dit alors dans les gens qui sont là depuis, enfin les précurseurs en fait, hein, que ce soit Copenhague Good Fashion, non c'est Copenhague Fashion Summit,
ouais,
c'est ça,
Copenhague Fashion Summit.
Copenhague Fashion Summit. Enfin moi la question que je me pose c'est les précurseurs, les early adopteurs de cette mouvance de sustainability dans la mode, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça et qu'est-ce qu'ils recommandent? Est-ce que tu sais ce qu'ils recommandent de faire? Parce que bon, c'est quand même des initiatives qui sont louables, c'est positif, ça va dans le bon sens. Les vrais de vrais, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça?
Les vrais de vrais, ils sont pas forcément en France. Après, ils ont une vision un petit peu, un recul sur ce que nous on fait. Parce que les vrais leaders, ils restent aux États-Unis, ils restent en Angleterre, où ils sont à Amsterdam aussi. Toutes ces guides, ces solutions concrètes, ces objectifs, ils ont déjà travaillé dessus. Genre, tu prends la CFDA aux États-Unis, qui est la fédération justement de la mode là-bas. Ils ont déjà sur leur site des guides hyper concrets pour t'aider justement à te fixer tes propres objectifs, à rassembler des solutions concrètes, etc. Donc, ils voient qu'on se bouge et ça va dans le bon sens. Hein. Enfin, on en a parlé la dernière fois. Faut essayer de pas être trop cynique en regardant ça et en se disant ok, oui, on est en retard et on est peut-être moins avancé que les autres, mais ça va quand même dans le bon sens, quoi.
Ouais. Ok. C'est vrai que le bon sens dirait ok, bah on va voir ce qui se fait de bien chez les autres, on l'adopte et puis basta. Et je trouve que, enfin moi, le sentiment que ça me donne tout ça, c'était quand même encore une récupération politique pour se dorer un petit peu le blason. Et alors que, encore une fois, et je pense qu'on en a souvent parlé tous les deux hors micro, l'initiative, enfin au départ, ça doit venir de chacun des entrepreneurs de la mode et chacun des designers surtout, qui doit pousser dans les maisons et chacun à son niveau doit pousser la sustainability en choisissant des tissus qui sont plus éco-responsables, en choisissant, à son niveau, chacun a le pouvoir de faire bouger les choses. Parce que bon, enfin, ces grands discours et ces chartes, c'est très bien et c'est super et ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience à tous les niveaux. Mais enfin, les gens qui font le taf, c'est eux qui doivent faire. Enfin, c'est ceux qui ont les mains dedans qui doivent faire avancer les choses, je crois, non?
Ouais, exactement. Parce que en fait, ce sujet-là de réunir les entreprises de mode, là, ça se situe surtout au niveau des CEO. En fait, François-Henri Pinault, il va rencontrer tous les CEO et il va demander au CEO justement de s'engager sur tels objectifs. Mais après, faut qu'en interne, faut que ça suive, faut que t'aies une culture qui soit assez mature pour que les gens prennent le sujet à bras le corps et aient envie de le faire pour les bonnes raisons et pas juste parce qu'on
parce que le CEO l'a demandé.
Ouais, parce que le CEO l'a demandé.
Et je pense qu'en fait c'est ça le vrai sujet, c'est que aujourd'hui les CEO, il y a cette prise de conscience globale et pour les bienfaits de l'entreprise, enfin tout le monde a compris qu'il fallait faire un virage à 90 degrés pour changer les choses et au niveau de ta communication et dans les faits il faut avancer là-dessus, mais le gros du chantier il est plutôt dans les équipes où on a des gens qui ont des façons de faire et des façons de fonctionner qui sont sur un modèle sur l'ancien modèle et chacun doit réapprendre en fait son métier à partir du sourcing jusqu'à la communication. Donc comment ces initiatives là avec Kering, Paris Good Fashion, etc. vont aider les opérationnels, les gens qui ont les mains dans le cambouis à vraiment agir?
Alors ça pourrait se faire en connectant les gens entre eux. Je prends l'exemple de Mara Hoffman, qui racontait que à un moment, elle a eu cette prise de conscience et en se disant ok, faut que je bouge, ma marque n'est pas du tout sustainable, comment je peux faire? Et elle s'est rendue compte que toute seule elle y arriverait pas. Et c'est pas en allant rencontrer ses fournisseurs et en demandant ok, vous avez quoi comme coton organique, qu'elle allait vraiment pouvoir bouger les choses et
avoir un impact durable.
Ouais, et avoir un impact durable. En fait, elle s'est dit je vais aller voir quelqu'un qui fait très bien les choses.
Donc elle était voir Stella.
Donc elle est allée voir Stella. Stella, elle lui a dit écoute, il y a pas de souci, moi je vais t'aider. Échange de bonnes pratiques entre les équipes. Les gens se rencontrent. Donc
ça vient de la base.
Ouais. Et puis enfin, rien n'empêche un designer d'aller rencontrer un autre designer ou d'un product developer d'aller rencontrer un autre dans une maison et justement d'échanger des bonnes pratiques parce que encore une fois, c'est pas un. Enfin, la concurrence entre les marques se fait pas au niveau de la sustainability.
Mais Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je te coupe, je suis désolé, mais tous les gens qui nous écoutent dans les studios, là, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans l'industrie de la mode, qu'est-ce qu'ils doivent faire à leur niveau pour enclencher ce processus-là? Vers qui ils doivent se tourner? Enfin, qu'est-ce qu'ils disent à leur boss pour leur dire, OK, moi, j'ai cette conviction personnelle, j'ai entre 20 et 35 ans, l'avenir de la planète, ça me tient vraiment à cœur. Comment je fais pour, à mon niveau, en sachant que bah, dans les maisons, c'est quand même un rythme infernal, il faut sortir des collections. Voilà. Qu'est-ce que je fais à mon niveau pour faire avancer les choses? Ça commence par quoi?
Bah, tu l'as dit, le rythme, il est infernal. Et en fait, pour ces sujets-là, ça demande une veille folle, quoi. Enfin, il faut connaître les solutions. Et quand tu es dans ton boulot, tu es dans ton tunnel de collection, etc., c'est quasiment impossible. Donc, c'est là où des personnes extérieures, justement, peuvent... t'aider justement à faire le switch, à trouver des solutions concrètes. Et c'est là où la Paris Good Fashion, justement sur un de leurs sujets de cartographie, pourrait être intéressante. C'est-à-dire que tu peux accéder à ce truc-là et te dire « Ok, moi j'ai un problème au niveau de mon sourcing, je sais qu'il y a telle personne, tels acteurs qui peuvent m'aider. » Et quand je vais voir mon CEO, je dis « Écoute, moi j'ai identifié que telle personne pouvait venir nous aider » et justement nous parler de ces sujets-là et nous proposer des nouvelles alternatives. Donc je pense qu'à tout seul, quand on est dans une maison ou dans une marque, faire le switch, ça devient c'est vraiment très compliqué.
Mais il faut se dire qu'il faut, tu vas voir, t'essayes d'avoir un rendez-vous avec ton boss ou avec ton CEO, il faut être force de proposition en disant moi je pense qu'il faut faire bouger les choses. J'ai compris dans notre groupe, qu'on soit chez Kering ou chez LVMH, que c'était un vrai sujet, donc il y aura forcément une sensibilité à ce discours-là. Nous opérationnellement, on sait pas forcément comment le faire, mais j'ai identifié quelques acteurs qui pourraient nous accompagner dans cette transition. Grosso modo, c'est ça que tu es en train de nous dire.
Ouais. Après ça, c'est un truc de base, tu vois, c'est dans toutes les entreprises, et c'est pas circonscrit au secteur de la mode. C'est quand tu vas voir ton supérieur et que t'as une idée, t'as déjà une idée potentielle de la mise en œuvre qui pourrait enclencher la chose derrière. Si t'arrives juste avec un grand discours, moi je suis passionné par l'écologie, je pense qu'on devrait avoir une stratégie là-dessus au niveau de la marque, quand tu viens de la base, c'est compliqué. Et c'est pour ça que souvent l'impulsion, elle vient d'ici haut et c'est par la direction que ça marche après. Mais quand toi, t'es à ton niveau et aller voir tes supérieurs pour dire faut bouger, c'est compliqué.
C'est compliqué. Ouais. Mais c'est possible.
Ouais, c'est possible.
Très bien. Il y a un autre sujet aussi, il me semble, dont tu voulais parler et que j'ai vu passer aussi, c'est Stella McCartney. Elle travaille avec Google pour améliorer ses supply chains.
Ouais.
C'est incroyable, ça.
Alors, toujours dans la lancée, en fait, du Copenhagen Fashion Summit, qui a un peu lancé ce mois de collaboration. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois des collaborations sur des secteurs qui sont différents.
Ouais.
Donc, après, tu as beaucoup d'initiatives tech, bien sûr, de startups qui se lancent et qui sont là pour disrupter l'industrie de la mode, et t'en as rencontré TikTekin récemment, qui est hyper intéressant.
Sorti hier.
Exactement. Et donc là, l'idée du partenariat avec Google, tout est basé sur la data, l'analyse des data et l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est d'avoir une sorte de LCA, donc Life Cycle Assessment, continuel. C'est-à-dire que sur ton produit, t'es capable de dire... sur un produit en particulier, tu serais capable de dire, on va utiliser le conditionnel parce que pour l'instant on n'a pas vu de concrètement à quoi ça pouvait ressembler et c'est un peu bon, on n'a pas toutes les infos. Tu serais capable de dire à chaque niveau ta supply chain et la production du produit, quel a été l'impact, le CO2 qui a été rejeté, la consommation d'eau, et toi ça te permet de savoir à quel niveau tu peux t'améliorer, ce qu'il faut changer, etc. Donc ça va pouvoir, a priori, calculer aussi bien la pollution de l'air que les émissions de gaz à effet de serre, on a parlé, l'appauvrissement des sols même. Donc l'idée, c'est d'aller même jusqu'à la culture et de voir si justement les sols sont pas trop stressés et si on leur demande pas trop consommation d'eau.
Ouais, tu peux peut-être nous expliquer l'appauvrissement des sols en 3-4 lignes, parce que ça, c'est quand même le fond du... Enfin, c'est un des gros sujets, en fait, de l'industrie de la mode et de l'agriculture, finalement. C'est que...
Ouais. C'est global, c'est pas que lié à l'industrie. Et en fait, la raison, c'est que.
La plupart des fibres, ouais.
Ouais, et puis en fait, la raison, c'est que souvent, on est sur des monocultures. C'est-à-dire que tu demandes à un sol pendant des années, des dizaines d'années, de faire que du coton ou de faire que du blé ou que du maïs. Et ça, les ingénieurs, agronomes, etc. Enfin, et toutes les études démontrent que ça...
Ça appauvrit les sols.
Ouais, ça appauvrit les sols, ça retire tous les nutriments que tu as dans les sols, etc. Et tu vois au final que, au global, on appelle ça le soil
en anglais.
Donc, qui est,
c'est vraiment le comment, le terreau fertile, quoi.
Ouais, exactement. C'est, enfin, c'est ce qui te permet de faire croître tes cultures, etc. Ouais. Et tu vois qu'il y a un appauvrissement global et que d'ici quelques années, d'ici même la fin du siècle, voilà.
Et grosso modo, c'est ça, c'est qu'il disait, alors, 100 ans en arrière, l'apport nutritionnel d'une pomme était genre 200 fois plus important qu'une pomme aujourd'hui à cause de cet appauvrissement du sol. Où on tire tellement sur la bête, on tire tellement sur nos sols qu'il est complètement appauvri et les cultures, bientôt on ne pourra plus faire pousser quoi que ce soit. Et la Exactement. Grosse problématique pour la mode, c'est que tous les tissus et toutes les fibres en fait, à partir desquelles sont faits les tissus, sont souvent issus de monocultures. Et donc, la mode, à chaque fois qu'on utilise des produits, des fibres vierges, on bousille les sols. Donc, c'est ça la grosse problématique, grosso modo.
Oui, après, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on mette un terme à toutes les fibres vierges. Oui. C'est-à-dire que quand tu travailles avec tes producteurs, il faut voir avec eux s'ils sont dans une démarche, justement, de faire tourner. Oui. Enfin, s'ils font tourner. Et je ne me rappelle pas si tu en as parlé avec Sébastien Kopp. Mais lui, il a certains producteurs qui vont faire sur certains champs du coton pendant 1, 2, 3 années, mm-hmm. et après ils vont passer sur une autre culture, etc. Enfin, ce qui permet de moins stresser continuellement les sols, quoi.
Très bien. Excellent.
Donc, hyper excité en tout cas par ce projet-là. Ouais. Tu peux faire des LCA, donc des Life Cycle Assessment. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire, des boîtes qui te permettent de le faire. Par contre, ça coûte
une fortune.
Ça coûte une fortune. Tout le monde ne peut pas se le permettre.
Ouais, donc l'idée là, c'est d'avoir un truc open source, en fait, non ?
Open source, probablement. Ouais. Enfin, c'est l'esprit Google aussi de partager ça, tu vois. Mm. Et aussi, d'apprendre de. Vu qu'on est sur la data, d'apprendre la data de tous les acteurs, quoi. Mm. Et donc, hyper excité de voir jusqu'à. Enfin, comment ça va évoluer. Mm. En tout cas, on tiendra au courant tout le monde de. Des avancées là-dessus.
Ouais. Carrément, ouais. Alors, il y avait un autre sujet que tu voulais parler avec nous, c'était Dazed, donc le magazine de mode anglais, ouais. qui rend la sustainability créative avec Future World. Ça, c'est excitant aussi.
Ouais. En fait, je lisais il y a quelques jours, enfin, je suis tombé sur une citation sur Instagram qui disait si tu veux que les gens prennent à cœur le sustainability et que ce soit pas comme un rejet ou comme une peur, faut que tu trouves des manières créatives et que tu arrives à toucher leur sensibilité. Parce que là, pour l'instant, c'est trop technique, ou c'est trop rough, ou c'est trop stressant, c'est anxiogène, si tu veux. Et ça a très peu été traité par des créatifs, par des artistes de tous bords. Et là, Dazed, c'est un peu donné cette mission-là, en mettant, pareil, lancé pendant la Copenhagen Fashion Summit. Et donc, c'est un site à part sur lequel tu as tout un tas d'articles, d'initiatives. On ne s'est pas circonscrit au monde de la mode. Donc, tu as des trucs sur les énergies, des bonnes pratiques, je ne sais pas, au Maroc, etc.
Donc, ça, c'est vraiment un site internet ou c'est un compte Instagram ?
C'est un site internet.
D'accord, ok.
C'est un site internet sur lequel tu as des articles. C'est vraiment focalisé. Donc, sur la science, sur la technologie, sur la pop culture. T'as des interviews, des films autour de sustainability avec, bien sûr, t'as notre Greta Thunberg qui intervient dessus. Jeremy Corbyn aussi, le leader du Labour Party en Angleterre qui est hyper prolifique sur ces sujets-là depuis peu. Maisie Williams, même Pamela Anderson. Qui justement viennent nous partager leurs espoirs justement pour un meilleur futur et donc c'est hyper positif, c'est très facile à lire et
c'est beaucoup beaucoup d'interviews, j'ai l'impression, et de présentations de personnalités qui font bouger les choses, qui avancent, des activistes, etc., quoi.
Exactement, ouais.
Allez faire un petit tour, ouais. Donc je mettrai le lien dans les notes, mais c'est dazeddigital.com/tag/futureworld.
Ouais.
Donc c'est une page dans Dazed Digital.
Ouais, c'est une page dans Dazed. Ouais. Et t'as aussi des adolescents qui viennent témoigner, qui ont écrit des articles. Et d'un point de vue mode, par contre, t'as un... ils ont pris le point de vue de Nike. Alors là, on s'y attendait pas forcément, mais avec une série de vidéos qui présentent leur Fly Laser, donc qui est leur cuir recyclé. Donc c'est pas 100% recyclé. Hein. Je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo, c'est hyper bien expliqué.
C'est dans Dazed.
Et c'est dans Dazed. Et qui tu peux suivre justement le chemin de du recyclage de cuir chez Nike, comment c'est fait, où c'est fait. Donc ils sont et c'est un peu entamé. Et là, je fais le lien avec le sujet dernier sujet dont on va parler, un peu le coming out de Nike, ouais, sur le sustainability. Mm-hmm. Parce que dans le sport, on entend énormément parler d'Adidas. Ouais. Avec la Futurecraft, l'impression 4D, la chaussure qui sera entièrement recyclable d'ici 2022. Mais Nike est comme le leader, en tout cas, sur le marché du sport. On entendait peu parler de leurs initiatives en termes de sustainability. Mmh. Et ça, c'est un peu, c'est lié aussi à leur histoire. Je sais pas si tu te rappelles, mais en tout cas, moi, quand j'étais enfant, bah, c'est là où tu as eu toutes les affaires qui sont sorties, où tu te rendais compte que bah, c'était des mecs de ton âge quand tu étais gosse qui fabriquaient les chaussures que tu portais pour aller au collège. Et en fait, à cette époque-là, c'était un gros coup de massue pour Nike. Et depuis, ils étaient très. Ils avaient très peu envie de communiquer, en tout cas, sur toutes leurs initiatives sans se faire taxer de greenwashing ou ce genre de choses. C'est ça, en fait, quand tu n'es pas. Quand t'es pas parfait,
faut mieux rien dire.
Après, personne n'est parfait, tu vois. Mais quand t'es pas parfait, les gens vont te tomber dessus quoi que tu fasses. Mais là, ils se sont dit, ok, on parle de collaboration, c'est peut-être le moment de justement de partager nos bonnes pratiques. Et tu te rends compte en fait que le partage, c'est pas une première pour eux. D'un point de vue communicationnel, oui. Mais le partage, ils le faisaient déjà avec d'autres entreprises. Tu prends l'exemple de Patagonia. Le code de conduite sociale de Patagonia, il est calqué sur le code de conduite de Nike. Parce qu'après, ces affaires justement de faire travailler des enfants, etc., dans des conditions innommables, bah, ils sont allés. Leur but, c'est d'être les meilleurs. Oui. Nike, c'est la victoire, on veut être les meilleurs. Donc, ils se sont dit, bah, on va être le meilleur sur le social. On a merdé, on veut être les meilleurs sur le social maintenant. Et en fait, tu te rends compte qu'ils partageaient quand même avec quelques acteurs aux États-Unis leurs bonnes pratiques. Mais là, ils se sont dit, OK, il faut qu'on permette à tout le monde de pouvoir y accéder et aussi voir que nous aussi, on se bouge, tu vois. Et donc, ils ont lancé un site dédié qui s'appelle Circular Design, sur lequel, en fait, tu as à peu près 10 sujets différents qui va de la réparation des produits à... au packaging circulaire, au nouveau business model, aux matières, etc. On pourra aller voir, on va pas te parler de tout. Et sur lequel tu vois toujours, eux, comment ils traitent ce sujet-là. Par exemple, de la réparabilité, comment ils le traitent et comment d'autres acteurs le traitent aussi. Donc, ils vont te mettre les exemples de best practice de Patagonia, de Nudie Jeans, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi de pas que se focaliser sur sa propre marque et aussi de montrer sur ton site en propre qu'il y a d'autres acteurs avec qui t'as pas forcément de lien mais qui font des choses très très bien. Donc ça, super initiative.
Tu me donneras les liens aussi.
Ouais, je te donnerai les liens aussi.
Très bien. Eh ben écoute, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était hyper riche. Voilà, ce que je dis toujours, on mettra les liens dans les notes du podcast. Et moi, vraiment, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je pense que entreprendre dans la mode a son rôle à jouer aussi sur ces sujets-là. J'espère qu'on va continuer à collaborer ensemble sur ces sujets-là.
Avec plaisir.
Je vous dis à très bientôt et puis bah merci encore Jordan pour ton insight.
Salut Adrien,
salut.
À la prochaine.
Ciao.
Merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.